بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc aujourd'hui on continue et on va essayer de terminer la lecture de Al-Mu'taqad al-Sahih du Cheikh Abd al-Salam Ibn Barjas rahimahullah ta'ala. Et on en arrive donc au dixième chapitre que le shir a intitulé Al-Mu'taqad al-Sahih Fima yajibu li wulat al-amri min al-muslimin. Fima yajibu li wulat al-amri min al-muslimin. La croyance authentique concernant ce qu'il est obligatoire vis-à-vis des dirigeants des musulmans. Le shir Abd al-Salam rahimahullah a dit Wa ya'taqidu ahlu sunnati wal jama'a بأن الله تعالى أوجب على المؤمنين طاعة ولاة أمرهم في غير معصية الله. Les gens de la Sunna et du groupe uni sur la vérité ont la ferme conviction qu'Allah l'exalté a rendu obligatoire aux croyants l'obéissance de leurs dirigeants tant que ce n'est pas dans une désobéissance à Allah. Puis il a dit, rahimahullah, « وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ اسْمَعْ وَأَطِعْ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْ شَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْصِيَةً. أخرجه ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن وأصله في صحيحين. Et ils ont également la ferme conviction, et ils apportent foi, au sens des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Ubadat ibn Samit, radiallahu anhu, qu'Allah l'agré, écoute et obéit dans la difficulté et la facilité, dans l'agrément, ou le mécontentement, même si le droit d'autre que toi est placé avant le tien, même s'il mange tes biens et qu'il frappe ton dos, sauf si c'est dans une désobéissance. Ça a été rapporté par Ibn Hibban dans son recueil authentique avec une chaîne de transmission fiable. Et la base de ce hadith se trouve dans les deux recueils authentiques, à savoir donc les deux recueils authentiques de Al-Bukhari et de Muslim. Et ici donc, par rapport à cette parole du Cheikh Abd al-Salam, Rahmahullah, on va s'arrêter quelques instants avec justement la version de l'imam Muslim de ce hadith, étant donné que le Cheikh a dit, et la base de ce hadith se trouve dans les deux recueils authentiques. À savoir donc Al-Bukhari et Muslim. La version de Muslim, c'est la suivante. Donc toujours d'après Ubadah ibn Samit, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous appela et nous lui prêtâmes allégeance. Ce qu'on appelle Al-Bay'a. Et nous lui prêtâmes allégeance. Et parmi l'engagement qu'il prit de nous, que nous lui prêtions allégeance sur l'écoute et l'obéissance, dans l'agrément ou le mécontentement, l'aisance ou la difficulté, même si le droit d'autre que nous est placé avant le nôtre, et que nous ne concurrencions pas le commandement à ceux qui le détiennent. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, sauf si vous voyez une mécréance claire et évidente à propos de laquelle vous disposez d'un argument venant d'Allah. Sauf si vous voyez une mécréance claire et évidente, kufran bawahan, à propos de laquelle vous disposez d'un argument venant d'Allah. On déduit de ce hadith, on peut déduire de ce hadith, de cette version du hadith, de la fin, de la version de Muslim, on peut déduire certaines conditions. Certaines conditions, parmi les conditions du fait de sortir contre les gouverneurs, de se rebeller contre eux. La première, donc, c'est la vision. C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, sauf si vous voyez Donc le fait de voir, pas juste le fait de se baser sur des doutes ou des spéculations ou des rumeurs, mais que vous voyez quelque chose donc qui est avéré. Une mécréance claire et évidente. Donc cette mécréance, il faut qu'elle soit claire et évidente. Et c'est la mécréance majeure qui est visée ici, c'est-à-dire la mécréance qui fait sortir de l'islam, étant donné qu'on a vu précédemment, dans les chapitres qui sont passés, que la mécréance est de deux sortes. Une mécréance mineure et une mécréance majeure. La mécréance majeure, c'est celle qui fait sortir de l'islam. Et c'est celle qui est visée ici. La troisième condition qui est citée dans ce hadith, c'est de disposer d'un argument sans équivoque. De disposer d'un argument sans équivoque. Étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à propos de laquelle vous disposez d'un argument venant d'Allah. Et cet argument-là, donc, c'est un argument qui doit être sans équivoque. Ibn Hajar a dit, donc l'érudit Ibn Hajar, a dit à propos de la fin du hadith, donc, à savoir, à propos de laquelle vous disposez d'un argument venant d'Allah, il a dit, rahimahullah, c'est-à-dire une preuve textuelle explicite d'un verset ou d'un hadith authentique qui ne laisse pas place à l'interprétation. Qui ne laisse pas place à l'interprétation. Cela implique, donc Ibn Hajar de continuer en disant, cela implique que le fait de se rebeller contre eux n'est pas permis tant que leur acte laisse place à l'interprétation. Tant que leur acte laisse place à l'interprétation, et là c'est la fin des propos d'Ibn Hajar. Et parmi les conditions sur lesquelles les ulama sont unanimes, et qui ne sont pas cités dans ce hadith, il y a la capacité. C'est-à-dire donc, même en plus de ces trois conditions-là qu'on a vues dans le hadith, il faut qu'il y ait la capacité. Ça c'est donc une quatrième condition. Et la cinquième des conditions, c'est que des méfaits plus grands ne soient pas craints si jamais cette chose venait à être concrétisée, à savoir le fait de sortir contre le gouverneur. Admettons que les quatre premières conditions soient réunies, les trois qu'on a vues dans le hadith, la quatrième qui est la capacité, il faut également prendre en compte les méfaits qu'il y aurait dans cela. Et il ne faut pas qu'ils soient plus grands que le méfait du fait que ce gouverneur reste à sa place malgré la mécréance qu'il a. Et tout cela, et ça c'est très important, tout cela doit être décidé par les gens de science. Tout cela, qui c'est qui regarde ces choses-là? Ces conditions-là, si elles sont réunies ou pas, ce sont les gens de science, ce sont les ulama. Et tel était le comportement des salafs. Ils revenaient aux ulama, aux grands ulama dans ces histoires-là, dans ces questions-là. Tu les trouvais à l'époque des tabi'in, tu les trouvais qui revenaient vers Al-Hassan, Al-Basri, rahimahullah. Tu les trouvais plus tard, dans d'autres circonstances, et je ne cite que deux exemples, ce sont deux exemples parmi tant d'autres, également par la suite, il revenait à l'imam Ahmed, lorsque l'épreuve a touché les gens de la sunna, il revenait à l'imam Ahmed pour savoir comment se comporter dans cette situation-là. Donc ce sont les ulama qui statuent dans ce genre de questions-là. Naam. Et ici, donc, on a pu comprendre la différence qu'il y a entre le fait qu'un gouverneur soit peut-être mécréant et le fait de sortir contre lui et que cela soit légitime. Les deux choses ne vont pas forcément ensemble. Il est possible qu'un gouverneur soit sorti de l'islam sans que pour autant il soit légitime et légiféré de sortir, de se rebeller contre lui. Car il y a également d'autres conditions à prendre en considération, des conditions très importantes, à savoir la capacité et également le fait de considérer les méfaits que cela contiendrait. Tout cela, bien sûr, en revenant, et j'insiste sur cela, aux gens de science, aux ulama. Le shir de continuer, le shir Abdel Salam, de continuer en disant وَيَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَ الْخُرُوجِ عَلَى وُلَاتِ الْأَمْرِ وَإِنْ جَارُوا وَظَلَمُوا مَا لَمْ يَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَهُمْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ بُرْهَانِ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف فقال لا ما أقام فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة وفي لفظ ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة أخرجه مسلم عن عوف بن مالك. Il a dit, et ils ont également la ferme conviction, ils apportent foi à l'interdiction de se rebeller contre les dirigeants, même s'ils font preuve d'injustice. Donc il est toujours en train de mentionner donc, la croyance des gens de la Sunna et du groupe uni sur la vérité, Ahl Sunna wal Jama'a. Et il dit, ils ont la ferme conviction, ils apportent foi à l'interdiction de se rebeller contre les dirigeants, même s'ils font preuve d'injustice. Tant qu'ils ne voient pas une mécréance claire et évidente à propos de laquelle ils disposent d'un argument venant d'Allah, comme nous l'avons vu donc dans les conditions qu'on a citées dans la parenthèse de tout à l'heure. Conformément à la parole du messager d'Allah, donc ici on remarque qu'il y a marqué Niqawli Rasouli. Donc, le nom Allah n'a pas été mentionné. Je pense que c'est une erreur. Apparemment, dans certaines versions, dans certaines éditions, il y est. Certaines éditions, il y est. Dans la mienne, il n'y est pas. Niqawli Rasulillah. Donc, conformément à la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il a dit, les meilleurs de vos imams, ce sont ceux que vous aimez et qui vous aiment. Et qui invoque en votre faveur, et en faveur de qui vous invoquez. Donc ici, as-salah, c'est dans le sens de l'invocation, comme l'a soutenu An-Nawawi, dans son commentaire de Muslim, et également Ibn al-Uthaymin, rahimahum Allah, dans son commentaire de Riyad al-Salihin. Et il a également été dit que la prière ici, c'était la prière mortuaire qui était voulue. Et il se peut que la première option soit la meilleure, ou Allahu A'lam. Donc, qui invoque en votre faveur et en faveur de qui vous invoquez. Et les pires de vos imams, ce sont ceux que vous détestez et qui vous détestent et qui vous maudissent et que vous maudissez. Il fut alors dit, ô messager d'Allah, n'allons-nous pas les combattre par l'épée? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, non, tant qu'ils accomplissent parmi vous la prière. Et lorsque vous voyez de vos dirigeants une chose que vous réprouvez, alors réprouvez cet acte-là, réprouvez son acte, mais n'ôtez pas de main de l'obéissance. Donc ça veut dire ne cessez pas de lui obéir. Ne cessez pas de lui obéir. Et dans une version de ce hadith, dans une variante de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque a un gouverneur qui le dirige et le voit commettre une chose parmi la désobéissance à Allah, qu'il réprouve ce qu'il commet comme désobéissance à Allah et qu'il n'ôte pas sa main de l'obéissance. Et ça a été rapporté par Muslim, d'après Auf ibn Malik, radiyallahu anhu. Le Cheikh Abdussalam, rahimahullah, de continuer en disant: Wal kharij من الجماعة ألحق به الشارع عقوبات غليظة في الدنيا والآخرة تتناسب مع عظم جريمته. من ذلك أن من مات وهو خارج عن الطاعة مفارق للجماعة مات ميتة جاهلية، ومن فارق الجماعة فإنه لا يسأل عنه كناية عن عظيم ذنبه، ومن فارق الجماعة فلا حجة له عند الله تعالى يوم القيامة، ومن فارق الجماعة فإن الشيطان معه يرتكض، ومن فارق الجماعة حل دمه. الشيخ هادي رحمه الله، le législateur a infligé à celui qui se désolidarise du groupe uni sur la vérité de lourdes punitions dans ce bas monde et dans l'au-delà qui correspondent à la grandeur de son crime. Parmi cela, le fait que celui qui meurt et il s'est désavoué, il s'est désolidarisé, ou il s'est désavoué de l'obéissance et il s'est désolidarisé du groupe uni sur la vérité, il meurt d'une mort de la période anti-islamique, al-jahiliya. Également celui qui se désolidarise du groupe uni sur la vérité, alors on ne pose pas de questions à son sujet. Sous-entendant par cela l'énormité de son péché. Et celui qui se désolidarise du groupe uni sur la vérité ne bénéficiera d'aucun argument auprès d'Allah le jour de la résurrection. Et celui qui se désolidarise du groupe uni sur la vérité, alors c'est le diable en vérité qui s'agite en sa compagnie et qui est son compagnon. Et celui qui se désolidarise du groupe uni sur la vérité, son sang devient par là même licite. Le Cheikh Abd al-Salam, rahimahullah, de continuer en disant « وَيَعْتَقِدُ أَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّ الدُّعَاءَ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاةِ مِمَّا يُحْمَدُ وَيَتَأَكَّدُ وَهُوَ عَلَامَةُ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ الْبَرْبَهَارِي فِي كِتَابِ السُنَّةِ إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول الفضيل بن عياض لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. وقال الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح. Le Cheikh de continue en disant et les gens de la Sunna et du groupe uni sur la vérité ont la ferme conviction que le fait d'invoquer en faveur du dirigeant afin qu'il ait la piété et qu'il soit assisté dans sa mission fait partie des choses louables et qui sont importantes et sur lesquelles il faut insister. Et c'est là le signe que l'homme qui applique cela fait partie des gens de la Sunna, comme l'a dit l'imam al-Barbahari dans son livre Sunna. Il a dit, lorsque tu vois l'homme invoquer contre le dirigeant, alors sache que c'est un adepte des passions. Et si tu entends un homme invoquer en faveur du dirigeant, afin qu'il ait la piété, alors sache que c'est un adepte de la sunna, incha'Allah, si Allah le veut. Al-Fudayl ibn Ayyad disait, si jamais j'avais une invocation, dans le sens une invocation à faire, une invocation donc exaucée, je ne l'aurais faite qu'en faveur du dirigeant. En effet, nous avons été ordonnés d'invoquer en leur faveur afin qu'ils aient la piété. Et nous n'avons pas été ordonnés d'invoquer contre eux, même s'ils font preuve d'injustice et qu'ils sont injustes, étant donné que leur injustice les concerne à eux et concerne également l'ensemble des musulmans, alors que leur piété est en leur faveur et en la faveur des musulmans. Le Cheikh Abdeslam de continuer en citant la parole de l'imam Sabouni dans son livre Aqidat al-Salaf Ashab al-Hadith, dans laquelle il a dit, Rahimahullah, donc l'imam Sabouni, en citant donc la voix et la croyance des gens de la Sunna, et il considère que l'invocation en leur faveur, c'est-à-dire à la faveur des dirigeants, afin qu'ils se réforment et qu'ils soient assistés et qu'ils soient pieux, fait partie donc de leur voix. Et il a également dit, comme a continué à le dire donc, le Cheikh Abdeslam, ici donc se termine la parole de l'imam Sabouni, et le Cheikh Abdeslam, rahimahullah, de continuer en disant, ويرون أن سبهم مما نهي عنه شرعا باتفاق أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنس بن مالك رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب رواه ابن أبي عاصم fi sunnati wa ghayruhu. Il considère également que le fait de les insulter fait partie des choses qui nous ont été interdites religieusement à l'unanimité des plus anciens parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik radiyallahu anhu disait: nos anciens parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous ont interdit en disant, n'insultez pas vos émirs et ne les trompez pas et ne les détestez pas et craignez Allah et soyez endurants car l'issue est proche. Rapporté par Ibn Abi Asim dans son livre Sunnah et par d'autres. Naam. Et également, le Shir a continué dans le chapitre donc, qui suit, et il a parlé de An-Nahyu anil jidal fid-din. An-Nahyu anil jidal fid-din. L'interdiction du débat dans la religion. Et il a dit, Rahimahullah, wa yanha ahlus sunnati wal jama'a anil jidal wal khusumati fid-din. إذ قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. Et les gens de la Sunna et du groupe uni sur la vérité réprouvent le débat et les disputes dans la religion, étant donné que le prophète صلى الله عليه وسلم a mis en garde contre cela. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. Dans les deux recueils authentiques, il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: lisez le Coran tant que vos cœurs sont unis, mais lorsque la divergence survient entre vous, alors cessez. وفي المسند وسنن ابن ماجه وأصله في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهم يختصمون في القدر فكأنما يقفأ في وجهه حب الرمان من الغضب فقال بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض بهذا هلكت الأمم قبلكم. Et dans le Musnad, donc le Musnad de l'imam Ahmed, et dans les Sunan d'Ibn Majah, et la base de ce hadith est présente dans le recueil authentique de Muslim, d'après Abdullah ibn Amr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit un jour, ils étaient en train de se disputer à propos du destin, à propos de la question du sujet du destin. Et c'est comme si des graines de grenade, donc le fruit, avait été pressé sur son visage, tellement qu'il était en colère. Et son visage est devenu rouge. C'est une image donc, qui est utilisée pour dire que son visage est devenu rouge, il a rougi de la colère. Et il a dit, est-ce que c'est cela qui vous a été commandé? Ou est-ce que c'est pour cela que vous avez été créé? Vous cherchez à opposer certains du parti du Coran à d'autres, c'est bien par cela que les communautés avant vous ont péri. Le Cheikh Abd al-Salam de continuer en disant Bal jaa al-khabaru bi anna al-jidal 'uqubatun min 'uqubati Allah fi al-ummah. Fa fi sunan at-Tirmidhi wa Ibn Majah min hadith Abi Umamah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا. Une narration authentique a même été rapportée faisant état que l'esprit de polémique est une punition parmi les punitions qu'Allah inflige à la communauté. En effet, dans les Sunan de Tirmidhi et dans celle d'Ibn Majah, on trouve le hadith de Abu Umama, radiyallahu anka l'alagré, qui dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il n'est pas un peuple qui se soit égaré après avoir été sur la bonne voie, sans que l'esprit de polémique leur ait été attribué. Puis il a lu « Ma darabuhu laka illa jadala » Ils nous l'ont cité un exemple que par esprit de polémique. « Qala l'imam Ahmad rahimahullah, usul sunnati indana, attamassuku bima kana alayhi ashabu rasul » صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. الإمام أحمد رحمه الله أجي les fondements de la sunna chez nous résident dans le cramponnement à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète, du messager sallallahu alayhi wa sallam, et le fait de les prendre comme modèle, et le rejet des innovations. Et toute innovation est un égarement. Et le fait de délaisser les disputes, et le fait de s'asseoir avec les adeptes des passions, et le fait de délaisser le débat dans le faux et les disputes dans la religion. Puis le Cheikh Abd al-Salam, rahimahullah, a continué justement en éclaircissant quand est-ce que le débat est considéré comme étant un débat dans le faux. Et il va faire la distinction entre le débat qui n'est pas légitime, le débat dans le faux, et le débat qui est légitime en religion. Et il a dit « Wa kullu dhalika fil jidalil bil batil » Et tout cela, c'est-à-dire tout ce qui vient d'être mentionné, concerne le débat dans le faux. أو الجدال في الحق بعدما تبين. Ou le débat concernant le vrai qui a déjà été éclairci. أو الجدال في ما لا يعلم المحاج. Ou le débat qui est mené par une personne qui n'a pas science de ce sur quoi elle débat. أو الجدال في المتشابه من القرآن. Ou le débat concernant ce qui paraît équivoque des versets coraniques. أو الجدال بغير نية صالحة. Ou le débat qui n'est pas motivé par une bonne intention. ونحو ذلك. Et ainsi de suite. Donc il t'a cité des exemples de débats qui sont réprouvés par la religion et qui sont visés par l'interdiction du débat. Le débat dans le faux, le débat concernant le vrai qui a déjà été éclairci, le débat mené par une personne qui n'a pas science de ce sur quoi elle débat, le débat concernant ce qui paraît équivoque des versets coraniques, et le débat qui n'est pas motivé par une bonne intention, et ainsi de suite. Puis il a continué en citant le débat qui est louable. Et il a dit « Amma, idha kana al-jidal li idhhar al-haqq wa bayanihi min 'alimin lahu niyyatun salihah multazimin bil adab fadhalika mimma yuhmad qala Allah ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. وقال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Il a donc dit, par contre, si le débat consiste à éclaircir et faire apparaître la vérité, et que cela vient d'une personne savante, animée par une bonne intention, qui se conforme aux bonnes manières, alors cela fait partie de ce qui est loué et louable. Allah l'exalté a dit, appelle au sentier de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation. Et débat avec eux de la meilleure des manières. Et il a également dit, et ne débattez avec les gens du livre que de la meilleure des manières. Et il a également dit, l'exalté, ils dirent, donc en parlant du peuple de Noé, qui avait refusé son message, ils dirent, ô Noé, tu nous as certes disputé en insistant dans cela. Apporte-nous donc ce que tu nous promets, si tu es réellement parmi les véridiques. Donc on retrouve ici le débat qui est loué. Le débat qui est loué, bien sûr, il a été considéré par les ennemis d'Allah, par ceux qui ont refusé le message de Noé, ça a été considéré comme des disputes, mais à la base, c'est quelque chose qui est bien sûr louable, étant donné que le prophète Noé, alayhi salam, l'a mené. Le shirk continue en disant wa akhbara ta'ala an muhajat Ibrahim alayhi salatu wa salam ma'a qawmihi. وموسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون وفي السنة ذكر محاجات آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام ونقل عن السلف الصالح مناظرات كثيرة وكلها من الجدال المحمود الذي توفر فيه العلم والنية والمتابعة وأدب المناظرة. Et il a également informé à propos de l'échange qu'il y a eu entre Abraham alayhi salatu wassalam et son peuple. et entre Moussa alayhi salat wa salam et Pharaon, de même que dans la Sunna, il est fait état de l'échange qu'il y a eu entre Adam et Moussa alayhi salat wa salam. Et il a été rapporté des pieux prédécesseurs beaucoup de discussions qu'ils ont eues. Toutes font partie du débat qui est louable, dans lequel étaient réunies la science, la bonne intention, la conformité, c'est-à-dire la conformité donc à la sunna du professeur sallallahu alayhi wa sallam, et les bonnes manières. Et les bonnes manières. Donc retenez bien ces conditions-là, les conditions du débat louable dans la religion. Le cheikh Abdeslam de continuer donc dans le dernier chapitre qu'il a intitulé At-Tahdhir min mujalasati ahli al-ahwa, la mise en garde. Et dans mon édition, peut-être dans certaines, vous trouvez At-Tahdhir, At-Tahdhir, excusez-moi, avec un kha. Donc c'est bel et bien un ha, sans le point. Donc vous corrigez si vous avez également cette erreur dans votre édition. At-Tahdhir min mujalasati ahli al-ahwa, la mise en garde concernant le fait de s'asseoir avec les adeptes des passions. Et il est plus qu'opportun et intelligent, et ça montre la grande compréhension du shir, qu'Allah lui fasse miséricorde, de terminer son livre qui fait état et qui mentionne, qui recense les fondements de la croyance islamique qu'il est obligatoire à tout musulman d'avoir. Il était très opportun de sa part de terminer par ces deux chapitres-là, à savoir l'interdiction du débat dans la religion et la mise en garde concernant le fait de s'asseoir avec les adeptes des passions. Étant donné que ces deux choses-là font partie des causes qui vont te permettre de préserver ce trésor justement que tu as, ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a attribué, à savoir le fait de connaître la croyance authentique et d'y apporter foi. C'est là un trésor que tu dois préserver. Et parmi les manières et parmi les causes qui permettent de préserver cette chose-là, il y a le fait de s'écarter du débat dans la religion et des polémiques et des disputes, et également de se méfier et d'être sur ses gardes concernant les adeptes des passions, les innovateurs, et de ne pas s'asseoir avec eux. Donc c'est pour cela que le Shir a terminé par ces deux chapitres-là. Et le dernier, donc, c'est « At-Tahdhir min mujalasati ahli al-ahwa », la mise en garde concernant le fait de s'asseoir avec les adeptes des passions. Et le Shir a dit « وَحَذَّرَ أَهْلُ السُنَّةِ مِن مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْأَهْوَى وَالْبِدَعْ تَحْذِيرًا شَدِيدًا لأن مجالستهم فيها مخالفة أمر الله وهي علامة محبتهم ومجالسهم على خطر من الانقياد إلى ضلالهم ومتابعتهم على باطنهم. Et les gens de la Sunna ont fortement mis en garde contre le fait de s'asseoir avec les adeptes des passions et des innovations, étant donné que le fait de s'asseoir avec eux constitue une contradiction à l'ordre d'Allah. Et c'est là le signe de leur amour. Et celui qui s'assoit avec eux est en grand danger. Et il s'expose au danger de tomber dans leur égarement et de les suivre dans leur faux. Le shir de continuer en disant « قال ابن تيمية رحمه الله والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. Fin de ses propos, rahimahullahu ta'ala. Le shir ici a voulu établir, en citant donc ces propos d'Ibn Taymiyyah, il a voulu établir à partir de quand la personne est considérée comme faisant partie des gens des passions, Ahlul Ahwa. Et il a cité donc la parole d'Ibn Taymiyyah, dans laquelle il a dit: l'innovation qui, si un homme la commet, fait de ce dernier un adepte des passions, c'est ce qui est connu chez les gens de science de la Sunna comme contredisant le livre et la Sunna, telle que l'innovation des Khawarij, des Rawafid, d'Al-Qadariya et des Murji'a. L'innovation, je répète, qui, si un homme la commet, fait de ce dernier un adepte des passions, c'est ce qui est connu chez les gens de science de la Sunna comme contredisant le livre et la Sunna, tel que l'innovation des Khawarij, des Rawafid, des Qadariya et des Murji'a. Ici, on retient deux points importants des propos d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Le premier, c'est lorsqu'il a dit: c'est ce qui est connu chez les gens de science de la Sunna. Donc ça revient ici aussi aux gens de science de la Sunna. Et c'est eux qui statuent donc de l'innovation et du caractère innovateur d'une personne. Naam. Comme contredisant le livre et la Sunna. Donc tu retiens également que l'innovation, donc c'est en contradiction avec le Coran et la Sunna. Et on retient également les exemples qu'Ibn Taymiyyah a cités. Et j'insiste bien, ce sont des exemples. Et c'est on ne peut plus clair quand il dit Kabida'atil Khawarij. Le kaf ici, ça signifie l'exemple. Kabida'ati. Littéralement, à l'exemple de l'innovation des Khawarij, de la Wafid, des Qadariya et des Murji'a. Donc ici, c'est un exemple. Ce sont des exemples qu'il a cités. Ça ne veut pas dire qu'il a restreint l'innovation dans cela. Naam. Et l'innovation, donc ça revient à ce qui est considéré comme tel chez les savants de la Sunna. Chez les savants de la Sunna. Le Cheikh Abdussalam, rahimallah, de continuer en disant: قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة. نقله عنه البغوي في تفسيره. وقال ابن جرير الطبري رحمه الله: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدع والفسقة عند خوضهم في باطلهم. انتهى كلامه رحمه الله. قال ابن عباس: لا تجالس أهل الأهواء إن مجالستهم ممرضة للقلب. Puis le Cheikh Abdussalam de terminer en disant: تم بحمد الله وتوفيقه كتاب المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده. أسأل الله تعالى أن يجعله لوجهه الكريم خالصة ولسنة نبيه محمد موافقة صلى الله عليه وسلم وأن ينفع به عموم المسلمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل بيته الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Donc le shir a dit: Allah L'exalté a dit, lorsque tu vois ceux qui partagent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, a dit, tout individu qui apporterait une chose nouvelle dans la religion est tout innovateur et concerné par ce verset, et ce jusqu'au jour dernier. Et cela donc a été mentionné et attribué à Ibn Abbas par Al-Barawi dans son exégèse, dans son tafsir, dans son explication du Coran. Et Ibn Jarir al-Tabari a dit, donc également dans son exégèse, et vous savez donc qu'Ibn Jarir, il est considéré comme étant l'imam des exégètes. Et il a dit, ce verset contient la preuve évidente de l'interdiction de s'asseoir avec les gens du faux de toutes sortes, parmi les innovateurs et les pervers, et ce lorsqu'ils pataugent dans leur faux. Qal Ibn Abbas, donc, fin des propos de Ibn Jarir, Ibn Abbas a dit, ne t'assieds pas avec les adeptes des passions, car le fait de s'asseoir avec eux rend les cœurs malades. Et c'est ainsi donc que se termine les propos du Cheikh Abdussalam rahimahullah ta'ala. Et ici donc, je voudrais vous lire, et on va terminer par cela, une parole d'Ibn Battah, mort donc, qui faisait partie des savants du 4e siècle de l'Hégire, mort en 387 de l'Hégire, qui a dit dans son livre Al-Iban al-Kubra, après avoir rapporté par sa propre chaîne de transmission le hadith de Imran, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui parmi vous qui entend parler de la sortie du Dajjal, qu'il s'en éloigne autant qu'il peut, car l'homme se présentera à lui pensant qu'il est croyant, il pense de lui-même qu'il est croyant, mais peu de temps s'écoulera avant qu'il ne se mette à le suivre à cause de ce qu'il verra comme ambiguïté. Ibn Battah, de dire en annotation et en commentaire de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith authentique, rapporté par l'imam Ahmed et par Abu Daoud, et authentifié donc par le Cheikh Al-Albani, Ibn Battah a dit, ceci est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est le véridique et digne de confiance. Donc Allah, ô musulmans, que la bonne opinion que l'un d'entre vous a de sa propre personne et que la connaissance qu'il a de l'authenticité de la voie qu'il suit ne le mène pas à mettre en danger sa religion en s'asseyant avec certaines personnes parmi les adeptes de ses passions en disant « Je le côtoie afin de débattre avec lui » ou afin de déceler réellement la voie qu'il suit. Car la tentation de cela est encore plus prononcée que celle du Dajjal. Et les propos qu'ils tiennent sont encore plus collants que la gale. Et ça colle plus à la peau que la gale. Et plus brûlant pour les cœurs que la flamme. Et j'ai pu voir, écoute bien cette chose-là, de la part de cet imam Ibn Battah, et j'ai pu voir des gens les maudire et les insulter. Puis ils se sont assis avec eux afin de les blâmer et les réfuter. puis les faux semblants, le zèle et la ruse cachée de ces gens-là, ajoutés à la mécréance subtile et pernicieuse, les filles à terme penchées vers eux. Fin des propos d'Ibn Battah, rahimahullah ta'ala. Des propos à écrire en lettres d'or, comme on dit. Et des propos qu'il a tenu à son époque, au 4e siècle, et qui sont toujours d'actualité, surtout à notre époque. Et nous pouvons également constater des frères qui étaient parmi nous, qui étaient en apparence fermement attachés à la sunna, cramponnés à la sunna, fermes contre les innovateurs, durs contre eux, mais qui se sont aventurés à vouloir débattre avec eux, afin d'établir la preuve contre eux, ou de déceler réellement la voie qu'ils suivent, et qui à terme sont devenus comme eux, voire pire qu'eux, à cause des ambiguïtés qu'ils ont entendues durant les discussions qu'ils ont tenues avec eux, durant les débats qu'ils ont menés. Et ces ambiguïtés-là donc leur ont collé, se sont agrippés à leur cœur, et ils n'ont pas réussi à s'en détacher. Surtout à notre époque, l'époque de l'Internet, l'époque des forums de discussion, l'époque des réseaux sociaux. Combien de frères, certainement animés par une bonne intention, se laissent aller à mener des débats, à vouloir réprouver des gens dans des propos qu'ils tiennent, et à s'aventurer et à se mettre en danger. Les anciens de cette communauté disaient: « In kunta mukhatiran li shay, fala takun mukhatiran li dinik. » Si tu dois mettre en péril, en danger quelque chose, ne mets pas ta religion en péril ou en danger. Et wallahi, qu'en faisant ces choses-là, tu mets ta religion en danger et en péril. Donc, prends en compte ces recommandations-là. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous affermir et de nous montrer la vérité en tant que telle, et de nous assister afin de la suivre, et de nous montrer le faux sous sa vraie forme, et de nous aider et de nous assister afin de nous en écarter. Puis le shir a dit: c'est par la louange à Allah et son assistance que se termine ce livre, Al-Mu'taqad al-Sahih, Al-Wajibi ala kulli muslimin i'tiqaduhu. Je demande à Allah l'exalter de le rendre sincèrement voué à son noble visage et conforme à la sunna de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il soit profitable à l'ensemble des musulmans, et qu'Allah accorde ses éloges et la paix à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et aux gens de sa maison, aux purs membres de sa maison, et à ses nobles compagnons, et ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance jusqu'au jour de la rétribution. Et c'est ainsi donc que se termine notre lecture et notre traduction de ce livre-là. S'il y a quelque chose dans cela qui a été bien fait, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il y a une ou plusieurs erreurs, alors sachez que ça vient et que ça émane de ma propre personne ou du diable, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sont exempts et sont désavoués de cette ou de ces erreurs-là. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.